Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto, les dimanches de 11h à 12h30, c'est sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui du sport moto et de la vitesse, ce soir 20h, heure française, aura lieu la première épreuve du championnat du monde de vitesse 2017 sur le circuit de Losail au Qatar. Pour en parler avec nous, aujourd'hui, Nicolas Poiret, Claude et normalement Jean-Pierre Bonduel, des passionnés depuis des années des Grands Prix moto. Avec eux, nous allons décortiquer ce championnat du monde 2017 qui s'annonce palpitant. Nico, Claude, bonjour.
Bonjour.
Oui. Il y a le décalage horaire aujourd'hui. Hein, à mon avis, là, le frangin, il n'a pas réussi à se lever, Claude.
Et il faut pas, ou en retard.
Sérieux, on l'aura à midi. Voilà. Donc, effectivement, la première épreuve donc, du championnat 2017 commence aujourd'hui au Qatar. Il y a une heure de décalage entre, je crois, entre la
deux
France.
Heures.
Ou deux heures de deux décalage heures entre la France et le Qatar. Donc, le MotoGP, ce sera à 20h. Par contre, Moto 3, ça commence à 17h, je crois. Ceux qui ont la chance d'avoir Eurosport, hein, qui payent, forcément. Voilà. Ah, bah Vincent, il dit qu'il y a Eurosport. Voilà, très bien. Voilà. Oui. Est-ce que. Alors, ça commence mal, parce qu'on a regardé, moi j'ai regardé les qualifs, tout ça. Et puis, mais c'est le déluge. Hein. J'ai regardé la piste, mais il y a un mètre d'eau sur la piste. Elle n'est pas drainée, cette piste, en fait, au Qatar.
C'est pas fait, ouais, c'est pas prévu qu'il pleuve.
Oui, c'est pas prévu qu'il pleuve. Non.
Ouais. Donc la piste n'est pas drainée, il y a des endroits où c'est sec, il y a des endroits où c'est complètement humide, donc on ne peut pas choisir vraiment des pneus pour la pluie. Donc ils sont coincés, ils n'ont pas voulu tourner, donc en fait les essais, ils ont pris les essais libres, les temps combinés des essais libres pour faire la grille de départ, parce qu'il n'y a pas eu de qualif. Et c'est pas dit que ce soir ça se passe très très bien, hein. Si on se souvient d'ailleurs en 2009 c'est déjà arrivé. Le MotoGP, ils avaient dû repousser au lundi. Hein.
Oui, ils ont annulé carrément, ils ont arrêté Moto 2, qu'ils ont transféré. Comment ça s'appelle ? Ils ont pris que les premiers tours pour faire la moitié, ouais, justement des points. Et le MotoGP, ils l'ont fait le lendemain matin, le lundi.
On verra, hein, parce que le warm-up, s'il ne fait pas sec, ils ne peuvent pas non plus choisir leurs pneus pour la course. Ça va être compliqué, hein,
Très compliqué. Logiquement, Michelin a prévu des pneus spécifiques pour ce circuit, plusieurs types de pneus, même pluie.
Oui, mais là, c'est plus des pneus pluie qu'il faut. C'est plus des pneus pluie
ils ont quand même l'infrastructure. Ils ont vraiment. S'il pleut à verre, c'est sûr, mais si c'est mouillé, ils enleveront une partie de l'eau sur les circuits. Hein. Sans problème.
Très bien. Voilà. On va parler de nos invités aujourd'hui. Alors, les autres invités, ce rendez-vous, c'est Tony Falcom, le papa, et Vincent Falcom, le fiston. Bonjour, Tony, bonjour. Vincent, bonjour. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Bonjour, hein. Hein, 13 ans?
Oui.
Tu as 13 ans, ouais, c'est ça? Oui. Bon, très bien. Voilà. Alors, on me dit que tu seras peut-être le futur Johann Zarco, peut-être, d'ici quelques années. Vincent,
ouais.
Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, bah, l'objectif, c'est de faire mieux, quoi.
Quoi?
De faire mieux? C'est pas mal, déjà. Hein.
De faire mieux que. D'accord. Donc, cette année, tu vas rouler en Copa Espana de Velocida.
Non, ça, c'était l'année dernière.
Ah, c'était l'année dernière, voilà.
L'année prochaine, je fais le championnat d'Europe Moto 3.
Moto 3, d'accord. Oui. Et donc, tu es le premier Français au classement et reconnu par la Fédération française de motocyclisme sportif de haut niveau.
Oui.
Alors, explique-nous un petit peu comment ça se passe en Espagne.
En Espagne, c'est très dur. C'est les mêmes horaires qu'en Grand Prix. 3 séances. Le jeudi et le vendredi, on a deux qualifs, le samedi, une course. Après, ça dépend, sur le circuit, il y a deux courses, mais c'est à peu près les mêmes horaires que les Grands Prix.
Est-ce que c'est disputé? Il y a la concurrence?
Oui, il y en a beaucoup même.
Hein, il faut savoir que quand même, les grands pilotes comme Lorenzo, Marquez, tout ça, viennent de là.
C'est le vivier. Hein,
c'est le vivier. Vivier, ouais.
Et
il faut absolument aller en Espagne pour pouvoir retenir, pour pouvoir être performant, pour pouvoir essayer d'arriver à haut niveau.
Oui, carrément, parce qu'en fait, là-bas, des petits... aujourd'hui, en France, c'est vrai que Vincent fait partie d'une poignée de petits pilotes comme ça qui roulent à l'étranger. Mais il faut savoir que là-bas, des petits comme lui, il y en a énormément. Il y a dans ces courses, d'ailleurs, il y a plus de 35 participants... Donc, il y a vraiment du monde, quoi. Il y a vraiment du monde et du niveau, et c'est les futurs pilotes qu'on retrouvera de toute manière en Moto 3 Grand Prix, oui, Moto 2.
Justement, je voulais poser la question, combien il y a de pilotes inscrits dans cette catégorie?
Ben voilà, donc faut savoir que lui, par exemple, il finit 6e d'un championnat où il y avait plus de 35 participants par épreuve. Et il faut savoir qu'on retrouve en fait le même niveau qu'il y a sur le Moto 3 Grand Prix, par exemple, puisque des fois, dans les 15 voire 20 premiers pilotes, ils sont dans la même seconde, voire des fois sur 2 secondes, il y a 20 pilotes. Donc le niveau est vraiment très, très relevé. Il faut savoir que toutes les séances chrono, tout ce qu'on essaie de construire tout le long du week-end, c'est pour essayer de grappiller des dixièmes, puisqu'en fait, pour essayer vraiment d'optimiser, pour vraiment essayer de rouler devant, puisqu'en fait, des fois, entre le premier et le cinquième, des fois, je vois, ils réalisent dans les séances chrono à 2 dixièmes près pour y gagner.
C'est un petit peu comme un Grand Prix, hein, quand on a un peu les Grands Prix, il n'y a pas grand chose d'écart, en fait, entre le premier et puis le sixième et le septième.
Hein. Exactement, puisqu'en fait, au niveau de la réglementation, en fait, ils travaillent vraiment pour que ce soit vraiment le pilotage qui en ressort, puisqu'on est déjà en boîtier unique, c'est vraiment la même réglementation que sur le haut niveau. On est en boîtier unique, on est pneumatique, on est limité, on est pareil.
C'est la bonne école, en fait. C'est vraiment
il y a une réglementation, on est limité en performance. Donc,
Et donc les machines, ce sont des pré-Moto 3 ?
Alors là en 2016, il a roulé sur une Moto 4, puisqu'en fait, par rapport à son âge, il ne pouvait pas rouler dans d'autres catégories. Donc une Moto 4, c'est exactement le même châssis qu'un Moto 3, avec un moteur de 150 cm3.
Ah oui, 150.
Donc c'est exactement le même châssis, les mêmes dimensions de jantes, pneus, fourches. Donc c'est vraiment pour habituer les jeunes pilotes à rouler sur des motos 3. Quoi. Donc,
j'ai vu qu'au niveau français, tu avais fait une catégorie pré-moto 3 en promotion.
En même temps que le championnat de France Superbike. Depuis l'année dernière. Par contre, on n'y est pas participé parce qu'on n'a pas pu par rapport à son âge. En fait, il y avait trop de restrictions puisqu'en fait l'année dernière, il avait 12 ans et au niveau de ce règlement-là, il pouvait pas y participer. Il aurait été bridé et du coup on pouvait pas jouer devant, donc c'est pour ça qu'on y est.
Combien d'épreuves au championnat d'Espagne d'Europe?
Championnat d'Espagne, il y a 7 épreuves.
D'accord, ça fait beaucoup de trajets.
Mais tu fais comment alors? Ça vous coûte très cher alors, le déplacement?
Oui, le déplacement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un poste important sur le budget. Lui, faut savoir que il vient en avion, comme ça le lundi matin il est à l'école, puisqu'en fait il est hors de question de tout sacrifier aujourd'hui pour la moto, puisqu'en fait pour son équilibre perso et puis pour tout, aujourd'hui on fait pas, on essaye de vraiment d'y aller prudemment pour essayer de construire des choses qui pour l'avenir, quoi. Donc les études, ça fait partie de c'est obligatoire, et c'est vrai qu'aujourd'hui lui il fait ce championnat malgré tout en poursuivant un niveau scolaire normal, quoi.
Donc il fait la course dimanche, il reprend l'avion, il reprend pour revenir ici pour être lundi matin à l'école.
Exactement.
Et donc le lundi matin à l'école, ça doit faire tout drôle dans la tête. Tu vas sur la grille de départ.
Non.
T'es habitué?
Ouais.
Non, tu demandes à tes copains qu'est-ce que vous avez fait ce week-end. Je joue à la Game Boy. Et toi, tu dis, ils te demandent ce que tu as fait toi. Ils disent, moi j'étais en Espagne, je me suis fait une course, mais je me suis bataillé avec des mecs bref. C'est incroyable. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bonjour, ça a été un décalage horaire aujourd'hui.
Hein. Oui. J'ai failli oublier là.
Très bien. Voilà. On va passer à un morceau de musique. D'abord, on va dire bonjour à Laurent. Laurent, bonjour. Notre technicien émérite.
Eh bien, bonjour à tous. Down back. Ça dit quelque chose ça, Vincent, là ? Ça, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est pas très nerveux quand même. Non. Voilà, donc aujourd'hui c'est spécial.
Et pourtant c'est Marquez. Hein. Ah ouais. Et ouais, pas de bol. Hein.
Alors je crois que Vincent, si c'est Marquez lui là qu'on entend, tu vas pouvoir le battre facilement.
Non mais c'est à l'entraînement. Hein.
Voilà. Allez, spécial sport moto et vitesse aujourd'hui, c'est l'ouverture du championnat du monde de vitesse de 2017. Ça se passe au Qatar. Ça commence mal parce que hier c'était la baignoire la piste.
Ils ont annulé,
on voit des endroits où il y a pratiquement un mètre d'eau sur la piste.
Un mètre d'eau, tu exagères.
Si, si, j'ai vu. Attends, j'ai vu une photo.
Alors, ils sont tous noyés.
Non, non, mais à peu près, elle est 60.
Non, non. Ce qui se passe en fait, c'est que la piste n'est pas drainée parce que c'est pas prévu pour la pluie. Il faut rappeler quand même que c'est un Grand Prix complètement aberrant. Il y a zéro spectateur. Hein.
Il n'y a pas zéro spectateur.
Il y a quelques mecs avec un torchon sur la tête, mais c'est tout.
L'année dernière, ils avaient compté 12 000 spectateurs.
Ouais. C'est bien, Claude. Ouais. À côté des 91 000 du Grand Prix de France.
200 000.
Il n'y a pas de motard au Qatar, il faut arrêter.
Ah non, je suis d'accord.
Donc en fait, ils payent pour avoir leur
beaucoup
championnat.
D'argent, Nico.
Ouais, ils donnent beaucoup d'argent. Donc du coup, ben, ils y vont. Mais comme il fait trop chaud, il faut faire ça la nuit. Donc déjà, il faut un éclairage artificiel, donc ça part un petit peu bizarre. Et là, quand il pleut, ben, éclairage artificiel plus la pluie, ça fait réverbération, on voit plus rien. Et en plus, la piste n'est pas drainée, puisque c'est pas prévu qu'il pleuve. Ils ont même pas pris assez de pneus pluie, parce qu'ils en prennent pas pour le Qatar, ça sert à rien. Donc tout est coincé, ça passe pas. Et les pilotes, il y a Capiro aussi hier soir qui a dit, on verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Mais parce que Capiro aussi, c'est le directeur de course et ancien pilote, mais directeur de course des MotoGP. Et donc il est responsable de la sécurité des pilotes. Et donc il a dit les pilotes décideront. Mais les pilotes c'est tout vu. Ils ont dit non, on peut pas rouler sous la pluie. En plus, cette piste elle sèche par endroit et par autre endroit c'est une baignoire. Donc effectivement ça marchera pas. Donc c'est pas sûr que du tout ce soir on ait le spectacle qu'on attende. Parce que le warm-up, normalement, ça sert à décider ses pneus. Et là, ils peuvent pas, parce avec les conditions de course du jour. Mais là, ils pourront pas, parce que le warm-up aura lieu deux jours, alors que c'est la pluie, c'est encore humide. Donc c'est pas clair. Il y a Rossi qui a rigolé avec ça, parce que d'abord Rossi, lui, c'est dur, il est dixième sur la grille, hein, parce qu'il n'avait pas prévu qu'on allait pas avoir de qualif. Donc il sait pas, comme il a un petit peu diesel et qu'il règle sa moto avant d'essayer de claquer un temps. Mmh. Et donc il y avait un journaliste qui plaisantait avec lui sur la débauche d'argent au Qatar. Et le journaliste il dit peut-être ils vont construire un toit d'ici demain matin. Alors aussi il dit bon d'accord pour le toit mais il faut mettre la clim à ce moment-là.
Bon alors ça c'est le problème, on sait pas, parce que normalement alors vraiment les horaires hein, Vincent, parce que tu me dis non c'est pas 16h. En fait le warm-up c'est alors française, attention hein, 14h50 15h10. Ça, c'est le Warner Moto 3, ce qui t'intéresse, finalement, Vincent. Hein, voilà. Et la Moto 2, 15h25, 15h45, pour ceux qui ont Eurosport hein, ou autre chaîne, je sais pas. Voilà. 16h, 16h20 pour le Warner Moto GP et la course Moto 3 devrait avoir lieu à 17h, heure française. Voilà. Et je rappelle, la MotoGP à 20h. Mais ça, 20h, c'est pas la peine d'avoir Eurosport. Nous, ici, dans le Nord, on a la chance d'avoir
la Belgique
sur la 2 et c'est gratuit. Voilà. Donc on parle Moto 3, Nico, Claude et Jean-Pierre.
Ah oui.
Bah oui, hein, donc on fait dans l'ordre des courses en fait. On commence par Moto 3.
D'habitude, on commande Moto GP, on finit par Moto 3 et là on va commencer Moto 3.
Ça tombe bien, là on a Vincent qui est un œil aguerri hein, sur la catégorie.
Il y a eu beaucoup de changements aussi hein, dans la Moto 3. Hein. Il y a eu beaucoup de changements de catégorie. Il y a eu le tenant du titre, Brad Binder, qui est parti. Puis il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Navarro, Bagnaia, Locatelli, Quartararo et Paui. L'homme de la pluie, comme on appelle.
Ah oui, c'est lui qui survolait tout le monde sous la pluie en pneus slick.
Ah oui, l'année dernière, pendant sa première victoire, tout le monde était persuadé qu'il y avait des pneus pluie avant de se rendre compte que non, il n'était pas en pneus pluie. Et qu'il pouvait rouler avec aussi vite.
Ouais, c'est vrai que l'an dernier, Brad Binder, il a un petit peu tué le suspense. Hein. Il a explosé tout le monde.
Constant et avec des victoires.
Une avance énorme. Ouais, une avance énorme.
Ouais. Et constant en faisant des remontées spectaculaires quand même. Hein.
Ah oui, ouais. Oui. Puisqu'il est parti une fois dernier et il a réussi à remonter tout le monde.
Ah, c'est pas facile de dépasser.
Ah ouais. Bah, tu peux le dire, ouais.
Rérez, ouais.
C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile de dépasser?
C'est passé. C'est étroit, t'es les virages.
C'est étroit. D'accord. Pourtant, nous, c'est marrant, la télé. Nous, on n'a jamais été à Jerez.
Mais on voit que la piste quand même pas très, très un petit peu comme à Seine. Seine, la piste est pas très large.
Quand on regarde bien, moi, là, elle fait 11 mètres. Ouais. De large. Alors que quand tu vas à Silverstone, elle fait 17 mètres de large.
Ah oui, ça
donc il y a quand même une grosse, une grosse différence.
Ou en Thaïlande, hein, Thaïlande aussi, la piste est,
bah, c'est les deux, très large. Les deux moins larges. Hein. RVRS et Catalunya, c'est les deux moins larges.
Alors autant on avait eu Danny Kent en 2015 et Brad Binder en 2016 qu'on sentait bien mener la catégorie, autant cette année ça va être plus compliqué. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus ouvert.
Ah, c'est peut-être plus ouvert. Attends, parce que ça n'a pas encore commencé. On va voir dans le 2-3 Grand Prix. Il y a peut-être un petit nouveau, hein, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes hein, qui sont là. Et donc, derrière, qui poussent. Il y a certains plus anciens. Mais il y a, par exemple...
Il y a toujours donc KTM et Honda dans les teams. Après, il y a Mahindra, mais en moindre mesure, ils ont plus de bons pilotes. Oliveira est parti sur... est parti donc
non. On peut coter sur Lorenzo de la Porta pour nous faire des éclats cette année.
Tu crois Lorenzo de la Porta? Ah oui. Il y a les pilotes du VR46 là, le fameux la structure
ça,
qui
c'est
est jeune talent qui est supporté par Rossi. C'est Nieto qui dirige au niveau sportif. Il y a Nicolò Bulega, lui il est déjà mis son petit nez l'an dernier et là cette année.
Mignot qui nous a fait
Mignot aussi, pareil. Ouais, Mignot, c'est tous les deux là, ils sont dans le team VR46. Après il y a celui qui s'est fait virer là, l'an dernier
avec
Fenati. Alors lui il est bon pilote mais il a pris le melon. Alors c'est terrible.
Je pense qu'il en veut à beaucoup. Et je pense qu'il va faire quelque chose là. Mais bon.
Ah oui, c'est, de toute façon, c'est un battant. Il a fait des belles courses l'an dernier. C'est dommage qu'il ait tout gâché par son comportement un peu.
Non, mais il y a d'autres pilotes aussi, style nouveau arrivé, hein, Beth Snyder par Sasaki. Exemple. Deux
Ayumi Sasaki.
Ça vous embouche à quoi les vieux
oui,
là.
Non, 16 ans et 45 kilos.
Oui, mais ils vont être obligés de lui rajouter du poids dans sa machine aussi parce qu'il est trop léger pour la machine. Ça, je l'ai vu. Une quinzaine de kilos presque.
Après, les Espagnols, Aaron Canet et puis Bastianini.
Il est italien.
Il est italien, Bastianini, oui. Et Aaron Canet, il est espagnol. Et puis Fabio Giantonio, là.
Qui a bien roulé aussi la saison dernière. Il était nouveau et il a vraiment éclaté en mi-saison. D'un seul coup, il a fait il a fini un podium, c'est ça. Il a fait un podium. Et après, il a toujours été pour se battre dans les 5-6 premiers. Ouais, ça, c'est. Je pense qu'il va peut-être montrer cette année ce qu'il vaut. Quoi.
Puis il y a un Hollandais qui monte aussi dans le team KTM, Arrow KTM.
Ben Snyder.
Oui, voilà. Ça, aussi, donc ça va être très disputé. Hein. Et il y a toujours une fille. Hein. Il y a quand même une fille. Hein. C'est le seul qui a une fille.
Herrera.
Il y a Maria Herrera qui est là.
Qui est revenue.
Ouais. Ouais.
Voilà. Mais on a. Vincent, on l'a déjà dit. Hein. De toute façon, il y a 5 ans, tu sais, il y a Jules Danilo qui était assis là, à ta place où tu es. Et on a même un enregistrement de son premier Grand Prix de France. Hein, donc on va, je sais pas, est-ce que tu veux l'entendre?
Ouais.
Ouais, bah écoute, on va le passer.
Jules, alors tu cours aujourd'hui, tu viens d'avoir 18 ans, je ne m'abuse, bon anniversaire.
Merci.
Et tu cours ton premier Grand Prix de France, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi?
Pour ce premier Grand Prix de France, bah, un peu de pression parce que c'est le haut niveau ici et ça roule vraiment très vite devant et... Malgré des bons chronos, je me retrouve quand même plutôt loin sur la grille. Donc il y a un peu de pression, mais je pense qu'il va falloir que j'évacue ça pour pouvoir rouler le plus librement possible et puis montrer de quoi je suis capable.
Alors c'est vrai que aussi la recette, la clé du succès pour un pilote, c'est d'abord de se faire plaisir, de jouer sur la piste et non pas d'être trop crispé. Alors est-ce que tu as une recette un peu pour essayer de décontracter?
Non, j'ai pas vraiment de recette. C'est juste le plus relâché j'arrive à être avant de monter sur la moto, le mieux je roule. En général, il y a des fois où je fais des bons chronos en rentrant au stand sans le savoir. Donc ça montre vraiment que quand on est relâché, les chronos ils tombent. Mais non, je n'ai pas vraiment de recette particulière.
Alors qu'est-ce que tu peux attendre de cette course en fait, quelle est pourquoi c'est important pour toi en fait de bien figurer ici?
C'est bien important pour moi de bien figurer ici parce que c'est médiatisé, tout ça, c'est le haut niveau, donc forcément si je suis devant au haut niveau, je montre que j'ai ma place dans ce championnat, et pour le moment, bah, je pense que c'est plutôt bien réussi.
Alors on sait ici que les conditions climatiques vont être difficiles, si la course déroule sur le sec ou sur la, si la course déroule sur le mouillé, ça va changer beaucoup de choses pour toi, tu peux nous expliquer un peu?
Pour le sec, je pense que je suis pas mal, je peux largement suivre jusqu'à la 15e place parce que il y a un peu moins d'une seconde, donc c'est facile, enfin c'est facile, c'est faisable de les suivre. Après, sur le mouillé, c'est très différent parce que c'est vraiment des sensations plus délicates, il faut être beaucoup plus doux sur la moto, sur les gaz, tout ça. Je suis pas forcément très bon sur le mouillé, mais là ce matin ça s'est bien passé, je me suis bien amélioré tout au long de la séance. Et voilà, donc.
Alors faut dire que tu es aussi originaire de Lille, la raison pour laquelle on t'a aujourd'hui interviewé, parce que tu vas passer là dans l'émission des motards sur Kika Kouté Toupal, Radio Campus Lille. Alors on te remercie de ta disponibilité et bien sûr on va suivre ta progression. Quelles sont tes perspectives d'évolution pour la suite?
Pour la suite, j'aimerais bien déjà figurer parmi les meilleurs dans le CEV pour décrocher une place permanente, enfin pour la saison 2014 en Grand Prix. Et après, bah, on va normalement faire plusieurs wildcards. Je pense qu'on discute pour le Sachsenring et Brno. Et donc bah, pour Brno et Sachsenring, refaire des bonnes performances pour me montrer un peu. Et puis voilà, l'objectif c'est vraiment d'être là en 2014.
Comment tu te sens dans cette équipe Marc VDS Racing? Comment ça se passe avec eux?
Bah, très très bien. Là j'ai eu un nouveau télémétriste et technicien. Et c'est des Néo-Zélandais, ils sont adorables. Et donc pour le moment tout se passe bien, on se comprend et la moto est bien réglée, elle marche.
Bah, écoute, tu as tous nos encouragements sans te mettre la pression. Voilà, tu sais que tu as. On est avec toi, on pense à toi et on va te regarder faire ça sur la piste. On te souhaite le meilleur évidemment. On te souhaite aussi d'être vraiment détendu, de ne pas te mettre la pression. Et au final d'avoir un bon résultat à la fin de cette course, de ce premier Grand Prix de France.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Merci Jules Lannier.
Like I do, I spend my life on my future.
Alors, on revient vite fait sur cette catégorie Moto 3 avec cet enregistrement de Jules Danilo qui a été réalisé il y a 3 ou 4 ans. Vincent, qu'est-ce que tu en penses
de Jules?
Ouais, de Jules.
Bah, c'est un bon pilote, mais il se met trop la pression. Comme vous avez dit avant, il essaye trop de gagner. Il pourrait gagner des courses, mais en se mettant moins de pression.
L'intervieweur dit courir, faut prendre son plaisir avant tout.
Ouais. Voilà. Ouais, parce que si
prendre du plaisir,
plaisir
à piloter.
Ça prend pas de plaisir.
Et pas penser à la place que tu veux faire.
Je pense qu'on pense toujours à la place. Quoi qu'on fasse, on pense à la place qu'on va faire, mais il faut prendre du plaisir avant tout.
Alors, tu te connais bien, Jules, parce que je pense que c'est. Il t'a fait passer un stage ou je sais pas.
CSM.
D'accord. Voilà. Et donc.
C'est lui qui lui a permis de pouvoir aujourd'hui piloter. Pouvoir prendre sa licence pour piloter.
Prendre
quoi.
Sa licence, voilà.
Donc, ouais. C'était son instructeur.
Parce qu'en fait, il y a un examen pour.
Oui, pour les. En fait, en Espagne, non, mais en France, pour prendre des licences, on est obligé de passer des guidons. En fait. Trois guidons pour pouvoir démarrer la compétition.
Et c'est une épreuve sur la piste.
Il y a une épreuve théorique, une épreuve. Il y a une épreuve théorique. Après, il n'y a pas d'épreuve pratique.
Et c'est des pilotes qui le font passer.
Carrément.
Ah ouais.
Carrément. Donc,
ah ouais.
Donc il y a des questions concernant la réglementation générale, les drapeaux, tout ça, quoi, les règles de base pour pouvoir entrer et sortir d'un circuit. Quoi.
D'accord.
Les règles de sécurité. Bon.
Pour aujourd'hui, enfin pour ce soir là, enfin 17h, il est 24e.
Alors oui, vu que les qualifs c'est les temps combinés.
Il y a 31 participants dans cette catégorie Moto 3.
Oui, ils sont nombreux.
Ouais.
Mais c'est vrai.
J'ai compté 39 pilotes moi au total. Mais peut-être 31 participants, ouais, possible. Ouais.
Et donc, Jules, l'an dernier, pendant les essais hivernaux, il se débrouillait pas mal et en début de saison, ça a été pas mal. Et puis après, ça a commencé à déraper. Et là, il n'a pas réussi à retrouver la dynamique qui faisait il a encore du mal, visiblement. Les essais hivernaux, ils n'étaient pas terribles.
Je pense que là, c'est encore une nouvelle moto. Je pense que la moto a encore super évolué. Et je pense qu'ils font attendre le.
Qui s'habitue encore, et qui se retrouve ses repères, les réglages.
Ouais, peut-être. Après, je pense qu'il faut peut-être encore attendre le début de saison. Ou peut-être, là, il partait sur des réglages. Il testait des choses, peut-être, pour bénéfiques pour les essais qualifs et peut-être pour la course. Donc, en fait, c'est vrai que, comme il y a eu.
Parce qu'il était très motivé. Il a fait une sacrée préparation physique. Ouais. Cet hiver et tout ça, il était très très motivé.
Je veux dire, le classement est un petit peu tronqué là parce que, avec cette histoire de pluie, il n'y a pas eu les qualifs. Hein, la grille a été faite suite aux essais. Hein,
les classements combinés des trois épreuves d'essais libres, oui.
Oui, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui se donnent beaucoup juste pour la qualification. Hein. Mmh. On les voit arriver d'un seul coup, on se dit, ils étaient que 10e, ils se retrouvent 3 ou 4e, et c'est vrai que des fois.
Avant le but, c'était de régler sa moto, c'est pas vraiment de faire un temps. Donc, on passe pas un pneu tendre pour dire de faire un temps. Quand on règle sa moto. Donc,
Oui, surtout qu'il fait partie d'un team où il y a Fenati dedans. Et
oui,
Fenati marche bien. Donc c'est pas la moto, c'est quand même l'adaptation peut-être.
Je pense qu'il a aujourd'hui il a l'expérience, Jules a vraiment l'expérience pour essayer de faire quelque chose de bien cette année. Parce que je pense que ça il me semble que c'est sa dernière année en Moto 3. Donc là il faut attendre quand même à ce qu'il fasse des résultats et je pense qu'on peut compter sur lui pour vraiment faire des résultats.
Comment ça marche, normalement il peut encore. C'est ce qu'il y a 27 ans là, Moto 3.
Ouais, mais je vais pas rester sur 27 ans en Moto 3.
Il y en a qui l'ont fait. Hein.
Mais quand même, Claude.
après je sais pas. Personnellement, j'ai jamais vraiment discuté avec lui s'il voulait rester en Moto 3. Mais je pense qu'à un moment, tout pilote, il passera en Moto 2. Donc après, je pense que là, cette année, son objectif, c'est d'abord cette saison. Et des résultats, de toute manière, il va en faire, vu la saison qui est dernière. Il a fait, je pense que.
C'est à partir de quelle catégorie qu'on commence à gagner de l'argent?
Je sais pas. Je sais pas.
La Moto 3, ça vous coûte.
ça coûte.
Je pense que tout dépend du sponsor aussi, surtout.
Des partenaires.
Des partenaires et sponsors.
De toute manière, c'est des sports mécaniques. Hein, donc, il faut savoir que des sports mécaniques, ça demande des sponsors.
Parce que Tony, moi, je me suis intéressé quand même au salaire des pilotes MotoGP. Hein.
MotoGP, ouais.
C'est pas rien quand même. Hein.
C'est pas rien.
C'est par million.
Ceux qui roulent.
C'est par million.
Carrel Abraham, il est en MotoGP, il paye pour rouler.
Ouais. Ouais, ouais, mais enfin, c'est, écoute, ouais. Franchement, c'est le seul, hein, parce que
je pense que quand on démarre, la compétition, c'est pas ce qu'on regarde, quoi, parce que ça coûte tellement cher au début.
C'est un sujet qu'on aborde comme ça. Mais,
ouais, c'est
je
clair.
Je comprends bien que.
Après, je pense qu'il y a vraiment que quelques pilotes, vraiment une poignée de pilotes qui gagnent de l'argent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément, je vais pas dire presque tout le plateau Moto 2 qui paye, mais les Moto 3, bah, c'est 100% du plateau. Maintenant, il y a toujours que quelques pilotes qui en tirent leur épingle du jeu. Bon, voilà quoi. Aujourd'hui, nous, je pense qu'on a la chance d'être français, de faire partie d'une nationalité où elle peut représenter sur le championnat du monde. Donc, je pense que nous, on arrivera.
Tout et pour tout, oui, c'est vrai qu'on a que trois pilotes français dans le championnat.
Ouais. Mais c'est pour ça d'ailleurs que nous, cet hiver, on a été contacté là, Dorna et puis pour participer.
Doris Baz, Zarco.
Quatre pilotes, Claude. Quatre.
Doris Baz, Zarco, Danilo.
Et voilà.
Et Quartararo.
Donc voilà, on termine sur la Moto 3. Il y a encore quelque chose à dire, Vincent? Peut-être, je sais pas moi. Hein, peut-être que dans 3 ans, tu seras là au départ, au Qatar, peut-être.
Ton pronostic pour l'année.
Ouais. Pour les Moto 3, allez. Déjà.
Pour Moto 3.
Je pense que ça va jouer à Valence la dernière course, mais ça va jouer entre les Italiens. On aura Martin qui va essayer de gagner. Didier Antonio.
Tu vois que là, il est d'accord avec toi.
Ouais. Oui, on a oublié de citer Martin qui a changé de moto. Et il marche très fort, surtout toutes les qualifications, il était au moins dans les 5-6 premiers.
Il va partir d'ailleurs premier demain. En F3, il avait fait la pole, donc demain, il va partir premier.
Mais deuxième
Pas demain, ce soir.
Non, ce soir, oui. Et deuxième premier, le podium, allez.
Premier.
Oui.
Premier, je pense que ça va être Martin. Deuxième, Antonelli, il va faire quelque chose. Sans oublier Didier Antonio qui peut jouer avec Antonelli. Et on aura une remontée d'Enea, je pense.
Bon, Claude, t'es d'accord un peu, non? Avec le pronostic de Vincent.
Je vois quand même quelqu'un de plus confirmé, Fenati.
Ouais, moi j'ai dit Fenati aussi.
Je le sens bouillant sur la piste. Il ne faut pas qu'il en fasse trop pour chuter. Mais je pense que non, il sera là. Il sera tout le temps là. Cette année.
Bon. Moi, pour conclure Moto 3, c'est quand même la catégorie dans laquelle il y a le plus de nationalités. 14 nationalités au total. Hein, c'est quand même assez surprenant. Il y a même un Thaïlandais qui arrive cette année. J'ai vu qu'il était 30e d'ailleurs.
Voilà. Donc on termine, Nico, éventuellement.
Moi je dis Fenati.
C'est ouvert, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive.
Je dis Fenati, Boulega et Canet.
Moi j'aurais dit Fenati en premier. Vincent, il dit que c'est pas lui.
Lui c'est le pro. Il va partir en tête, mais je pense que ça va couper court, ça va être dans les derniers tours. Il n'y aura plus assez d'énergie. Et les pneumatiques aussi.
Alors comment ça se fait qu'il part en tête et puis d'un seul coup, au bout d'un quart d'heure, il perd un peu le.
Il cherche pas ses pneus.
Non, il attaque, il fonce.
Moi j'aime bien Boulega.
Ça, c'est important d'économiser ces pneus là.
Il y a comme Vatour, je pense. Ouais. Je crois que c'est la course Vatour. Vatour en moto 3, c'est long.
Donc il faut calculer alors.
Ouais.
Hein, c'est pas la peine de vouloir partir comme.
Dépenses physiques, dépenses pneus et tout.
Il faut partir en tête, mais il faut pas vouloir prendre 15 secondes d'avance dans les 10 premiers tours.
Est-ce que ça épuise au bout de 20 tours? Est-ce que tu es un peu lessivé
Ouais. Ouais, franchement, physiquement, on tape, mais on n'arrive pas à garder nos réserves, on s'épuise.
L'attention surtout, l'attention.
Oui, l'attention. Parce qu'on part, on dit on va gagner, mais on arrive à la fin et on n'arrive plus parce qu'on n'a plus assez d'énergie.
D'accord, les trajectoires, toujours prendre la bonne trajectoire et pas se laisser partir embarquer par d'autres pilotes éventuellement.
Ouais, c'est important. C'est important, mais une fois qu'on est en bagarre avec 4-5 pilotes, on n'arrive plus. On est obligé de sortir des trajectoires.
T'es obligé. Ouais. Et quand t'es pas à la bonne trajectoire, malheureusement.
Malheureusement, on est gêné pour la réaccélération ou le passage en courbe, qui sera important dans des catégories si petites, parce que la moto est petite, donc elle vire facilement. Mais une fois qu'on est hors trajectoire, on peut plus se remettre.
Et l'aspiration est très importante. Hein. Ouais. D'ailleurs, on voit, on roule par grappe, et à chaque virage, c'est celui qui était juste derrière qui profite de l'aspiration qui repasse devant.
L'année dernière, Masbou, septième à l'entrée de la ligne droite, il gagne la course.
Oui, c'est dingue.
Et surtout qu'il est rentré dans le virage, il jouait 6e ou 7e dans le paquet. Donc
on n'a pas intérêt devant, en fait, pour mener, pour rester. On s'épuise, on tire tout le monde. Et
effectivement.
On se fait la traîner.
parfaitement raison, Nico. Effectivement, ouais. Et devant, peut-être que c'est pas forcément la
dans
meilleure
le virage,
place.
C'est pas bon. Ouais.
C'est de plutôt rester troisième, peut-être quatrième, et dans la SPI, dans la SPI, parce que ces motos, effectivement, moto 3, on voit qu'à chaque fois,
très important.
Toutes les deux minutes, il y a un changement de leader.
À chaque virage,
surtout s'il y a un paquet.
C'est spectaculaire. Hein.
C'est ce que tu fais aussi, ou tu essayes de te raisonner, tu dis, je pourrais être devant, je pourrais passer, mais à quoi ça va servir? Parce que tu vas te faire repasser par un concurrent.
On va pas essayer de passer dans un petit virage à l'entrée d'une grande ligne droite à Aragon. On va essayer d'attendre la ligne droite au bout du virage.
Être bien placé. Pour...
Ouais. Tout dépend de la ligne d'arrivée où elle se situe.
C'est l'endroit sur la piste pour choper l'aspiration et bien se placer.
À Aragon, on va pas sortir en tête du petit pif-off. On va essayer de sortir 4 ou 5 pour prendre l'aspire entre un fond premier ou deuxième dans l'avant-dernier virage.
Est-ce que tu te dis, par exemple, si tu vois que tu peux passer, est-ce que tu te dis, oh, je peux y aller là, allez, j'essaye. Ou tu dis non, je reste là parce que après je sais que je peux éventuellement bénéficier de l'aspi et après repasser dans un autre virage.
Généralement, quand on peut passer à un pilote, c'est qu'il fait une erreur ou qu'il laisse un trou. Donc s'il laisse un trou, on va essayer de passer.
Oui. Ouais.
Mais après, ça dépend. Si on est dans l'entrée d'une grande ligne droite, on va pas passer. Ça servirait à rien parce qu'on va directement passer après dans la ligne droite.
Tu restes derrière. Et bénéficier de l'aspi pour pouvoir reprendre au prochain virage, au bout de la ligne droite. Ouais, très bien. On passe à un morceau de musique, messieurs.
Ouais.
Dame, parce qu'il y a aussi sa sœur qui est là, hein, Vincent. Voilà, et puis après on parlera moto 2.
Ok.
Voilà, à tout de suite.
Tight. When madmen lose their luster, bury them from sight. Oh, I hate you when I'm with you, but I miss you when you're gone. Well, who's gonna tell your story? Who's gonna sing your song? And we'll keep an eye on the vulture if he stays. A shrug of the shoulder for all that you stole. No one's
saw it coming. No one took the blame. It was all too close for comfort, too pure for shame. And I hate you when I'm with you. I miss you when you're gone. But who's gonna tell your story? Who's gonna sing your song? And we'll keep an eye on the vulture.
Spécial championnat du monde de vitesse 2017, ça commence aujourd'hui, MotoGP à 20h. Nous, on est dans l'or, c'est bien parce que c'est gratos, on regarde la 2, hein, c'est une télé belge. Vous êtes beaucoup à nous écouter par internet, partout en France. Bah écoutez, excusez-nous, mais nous, on
a... Sur la TNT belge,
voilà. La TNT belge, voilà. Ou alors forcément, Eurosport, mais ça, après c'est payant. Voilà, donc on va parler Moto2, deuxième catégorie, la catégorie intermédiaire, hein, entre la 3 et la MotoGP. Là aussi, pas mal de changements aujourd'hui.
On a le changement à venir, puisque on parle d'un nouveau moteur bientôt. Ouais. Donc,
Oui, parce qu'il faut dire aux gens que c'est un moteur Honda et que toutes les gens, toutes les pilotes ont le même moteur.
Le même moteur qui est d'ailleurs échangé entre les teams toutes les trois courses.
Alors ça, c'était bien à l'origine, hein, cette idée-là, de... parce que ça met les niveaux, ça nivelle le c'est par le pilotage que tu gagnes, c'est plus par les performances du moteur.
Voilà, ouais, c'était une bonne idée. Et le problème, c'est que l'assistance EBR, elle n'existe plus, donc il faut trouver un autre moteur. Et en plus, le MotoGP ayant bien évolué avec l'électronique, il faudra trouver un moteur qui donne quand même l'assistance électronique au frein moteur et à la motricité, et puis un choix de cartographie. Donc juste ça, la base de l'électronique, parce que pour l'instant il n'y a rien en moto. Donc on n'apprend pas à gérer le frein moteur, on n'apprend pas à gérer électroniquement tout ça. Donc en fait, pour que la marche soit moins haute avec le MotoGP et que les pilotes soient déjà habitués à manipuler tout ça, ils ont changé les moteurs. Et donc ça a été tiré au sort, mais par contre c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2019. Et donc c'est Triumph qui a gagné l'appel d'offres avec son 3 cylindres 675.
Oui. C'est pas vrai.
Si. Donc ça sera des moteurs Triumph 675.
Ah d'accord.
Ouais.
Une chose bizarre aussi, c'est
qu'on dit que Tony qui fait un air un peu désolé. Pourquoi tu fais un air désolé? Non, c'est bien Triumph, non?
Ouais, c'est bien, c'est clair. Bon, j'aurais préféré un moteur japonais, mais bon.
Qu'est-ce que t'as contre les Anglaises?
Non, mais voilà.
Quoi. Ils font le Brexit.
De toute manière, le championnat perdra rien de sa compétitivité et tout, donc ça restera aussi bien, quoi.
On le sait pas, mais grâce au moteur unique, le Moto 2 coûte moins cher que le Moto 3. C'est terrible le prix d'une Moto 3, parce qu'en fait, c'est des 2,54 temps, mais hyper poussé. Donc maintenant, c'est devenu plus cher qu'une Moto 2. Alors que le moteur, bah, du coup, le moteur, quand on échange le moteur, il est pris, c'est une location de moteur. Donc il n'y a que le châssis, et finalement, c'est moins cher.
Donc par contre, si le moteur est identique sur toutes les machines, par contre, le cadre, lui, il n'y est pas.
Il n'y est pas, mais il y a quand même un constructeur de cadre qui est beaucoup plus prisé que les autres. Alex. C'est qu'Alex.
Oui, mais maintenant, cette année, justement, il y a un retour d'autres constructeurs.
Il y a Sutter, Speed-Up, il y a KTM, il y a Mistral. Ouais. Mistral.
Donc, à partir de là, on voit bien que quand même, la partie cycle, tu vas te faire engueuler.
Balou, il parle à 3 km du micro.
3 km du micro. Non, mais attends, quand même. Oh, c'est pas un machin ici. donc, on voit bien que la partie cycle, quand même, peut avantager, quand même, hein, un pilote. Et quand, si on revient, mettons, par exemple, à la MotoGP, avec, on voit encore Lorenzo qui dit qu'il va devoir, s'habituer à la machine, habituer son pilotage, et c'est pas la machine qui va s'habituer à lui. Donc, on voit par rapport à la Moto 2 que le moteur est identique, mais par contre, la partie cycle, elle n'est pas identique et elle fait gagner généralement les pilotes.
Mais c'est même déterminant parce qu'en fait, si on regarde, c'est le même moteur depuis le début de la Moto 2 et les temps ne font qu'augmenter.
Donc, chaque année, ils battent le record.
C'est le châssis qui fait la différence à chaque fois. Et donc, il progresse au niveau châssis, c'est incroyable. Ouais. Avec le même moteur, on va beaucoup plus vite avec un châssis différent, mieux adapté et puis évidemment le niveau de pilotage qui augmente également.
Les pneus, c'est quoi sur la Moto 2?
C'est comme en Moto 3, c'est des Dunlop. Hein. C'est manufacture unique. Ouais, tout le monde en Dunlop.
Et on a un Français, enfin le seul Français maintenant, mm-hmm. donc en moto 2, c'est notre ami, enfin je sais pas si c'est un ami, hein, peut-être que voilà, Fabio Quartararo. Hein, oui. Il a fait 10e là aujourd'hui, là. Il partira 10e sur la ligne. Donc
oui, il a fait des très bons essais, Arnaud. Il a d'ailleurs une des séances libres, il était 3e. Donc en fait, il s'est très très bien habitué à Moto 3. Il découvre, hein, il sort du Moto 3, il découvre le Moto 2. Et il s'est très très bien habitué. Et moi, je pense même qu'il fera un podium cette année déjà.
Alors Vincent, Fabio Quartararo, qu'est-ce que tu en penses? Un petit jeune, hein, tu sais qu'il avait même pas, il y a 2 ans ou 3 ans, là, il avait même pas l'âge pour aller en Moto 3.
Il a eu une dérogation.
Hein.
Ouais. Pour faire les deux premiers Grands Prix.
Il a gagné 3 fois, je crois, le championnat d'Espagne.
Deux fois le CV. C'est ce qui lui a donné la dérogation.
Par contre, il n'a pas du tout gagné en Moto 3.
Il a déçu en Moto 3, oui.
Alors voilà, dans un team, il faut avoir une bonne relation, il faut être bien dans son team. Apparemment, là, c'était pas le cas avec Fabio Quartararo.
D'après ce qu'on entend, non. Maintenant, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose de bien cette année. Bon, après, sa saison 2016, il a quand même fait quelques belles courses. Voilà, quoi, il y a quand même vraiment du haut niveau. Et
C'est pas son pilotage qui est en cause, à mon avis. C'est dans sa tête. Il faut qu'il soit bien.
Alors voilà,
dans le team.
Alors, il avait à peine 16 ans. Il est arrivé, je me souviens. Hein, il est arrivé en Moto 3. Face caméra, voilà, il commence à dire de toute façon, je vais gagner. Là, j'arrive, je gagne cette année.
Non, ce que je veux.
Le Moto 3. Ce que je gagne le Moto 2. Et je gagne Moto GP, je serai le champion du monde. C'est peut-être pas bon ça. Moi, je pense qu'il faut quand même être humble.
Au début, oui.
Vincent, qu'est-ce que t'en penses?
Comme Rossi avait misé sur lui pour être champion Moto 3 dès sa première année, ça nous met la pression.
Il a raison. Oui, il a raison. Tout le monde mettait de la pression. Les journalistes, le team disaient t'es là pour gagner, mon vieux. Il voulait du résultat. Ils avaient investi sur lui. Donc c'est compliqué d'être dans cette situation-là.
Ouais, mais par un jeune de 16 ans, qui a même pas 16 ans.
Au moins, il avait fait la pole. On pouvait même pas s'approcher de lui sur la prix gris parce qu'il y avait 40 000 spectateurs, 40 000 photographes à côté de lui.
C'est à toi de pas prendre le melon et de se déconcentrer. C'est vrai, il a raison.
Il part en tête. Au bout de 5-6 tours, il fait un Aïssa à l'entrée de la Dalo.
Et voilà, alors qu'est-ce que t'en penses?
Il avait la pression. Il voulait partir en tête, il part, premier, sorti de la Dalo, Aïssa. Il n'y a rien pu faire.
Donc, moralité, Vincent, il va falloir faire gaffe à ça. Si jamais tu deviens bon pilote et vedette, tu te souviendras toujours de cette émission Radio Campus Lille de dire fais gaffe, arrête de te prendre le melon. Je suis là pour prendre d'abord mon pied et après je gagne. D'accord.
Voilà. Bon, après, je pense que quand tu fais partie de la meilleure équipe du championnat du monde, la première année, il a débarqué en championnat du monde avec Monlo. Donc la pression, je pense qu'elle vient toute seule, puisqu'en fait, c'est une équipe qui est là pour gagner. Oui. Et lui, en plus, il venait de gagner une fois le CEV, une fois le championnat du monde Moto 3 FIM. Donc il venait de gagner le championnat du monde Moto 3 FIM avec cette équipe en CEV. Donc là, forcément, on ne peut pas attendre de lui une cinquième place au championnat. Quoi. C'était direct. Direct de devoir gagner.
Il avait signé dans l'équipe championne du monde l'année d'avant.
Voilà. Donc tout ça fait que compte tenu de son niveau et compte tenu de ses deux championnats qu'il venait de gagner, je pense que ses objectifs étaient normaux. Je pense que quand tu gagnes deux fois le CEV, je pense que c'est logique dans ta tête que tu penses vouloir gagner et que tu le dises. Puisqu'en fait, aujourd'hui, les autres pilotes le disent carrément. De toute façon, quand on écoute les interviews de pilotes italiens et espagnols, ils veulent tout gagner, ils veulent tout atomiser.
C'est ce que nous dit Tony là-bas, les petits, ils sont carrément agressifs envers les autres pilotes. Hein.
Voilà, aujourd'hui, il faut juste aller voir les championnats comme nous l'ont fait, le championnat d'Espagne. Il faut savoir que toutes les nationalités aussi sont représentées, puisqu'il n'y a pas que des pilotes espagnols. Il faut savoir que dans ces petits championnats-là, il y a aussi des Anglais, des Italiens et d'autres nationalités. Mais les bastons sont énormes, quoi, sont énormes. Donc ça prouve la motivation auprès des pilotes. Et voilà, et forcément après les pilotes, ils en veulent beaucoup plus, ça crée une détermination, une motivation qui fait que après sur le haut niveau ça se ressent quoi.
C'est une bonne école avant le grand bain.
Ouais, ouais, carrément.
Très bien, on passe un morceau de musique et on se retrouve tout de suite après. On a encore des choses à dire sur la Moto 2 peut-être après.
On peut faire un petit peu le point des forces en présence.
Et après, on parlera forcément la catégorie reine. Hein,
MotoGP.
Les balèzes. Les gros. Enfin, les gros, non, ils sont pas gros. Alors, je vous propose de revenir sur la Moto 2. On va parler un peu donc des pilotes engagés.
Oui, donc en fait il y a eu un écrémage puisque avec le double titre de Johan Zarco,
il est parti en Moto Grand Prix.
Il y a Folger qui l'a suivi, Rins, Love. Donc en fait les prétendants de l'an dernier, ils sont plus là. Donc on repart quasiment d'une page blanche. Il reste Lutti quand même, qui
a terminé un championnat super. Donc
ouais, belle fin de championnat. Tu le vois toi, Claude Lutti?
Oui. Oui, cette année, je pense que ça sera, je pense, sa meilleure année. S'il fait pas là, après, on peut se poser des questions.
C'est sûr que c'est un des prétendants. Il y a Morbidelli aussi qui est très fort.
Qui a monté en puissance aussi à la fin de...
Les deux pilotes VDS,
Je pense. Alex Marquez, Alex Marquez, le problème, c'est qu'il y a des circuits qui lui vont et des circuits qui lui vont pas. Donc il faut voir sur l'ensemble du championnat.
Pas oublier qu'Alex Marquez, il aurait le soutien de son frère. Pour l'entraînement et
psychologiquement ça aide, physiquement après il faut voir.
D'ailleurs il y a deux frères qui se battent interposés, parce qu'il y a Alex Marquez, le frère de Marc Marquez, puis il y a aussi Luca Marini, le demi-frère de Rossi, donc qui se retrouve, et il a pas mal progressé aussi, Luca Marini, c'est marrant de voir les deux frères.
Il y a plus fort encore en Moto Grand Prix, il y a les deux frères Espargaro. Ils ont toujours fait les championnats 125 de tous
ensemble. Et puis il y a toujours Nagakami, là, depuis des années il est là, juste un petit peu derrière, mais il n'arrive pas à conclure. Il n'arrive pas à passer le cap pour passer devant. Il est toujours dans les bons, mais toujours au pied du podium.
L'année dernière, il a gagné son premier Grand Prix. Bon, peut-être que ça a déclenché quelque chose. Il faut qu'il marque des points, des gros points à chaque Grand Prix. C'est ça son problème.
Ouais. Et puis il y a aussi Miguel Oliveira, donc lui il a le nouveau châssis KTM. Il y a un nouveau châssis en Moto 2 cette année, c'est le KTM qui ont avec Brad Binder qui traîne le châssis, et puis Oliveira. Et Oliveira, il se débrouille très bien. C'est un bon pilote, il se débrouille très bien avec ce châssis qui semble bien né. Et puis il y a aussi Francesco Bagnaia qui est monté et qui est le team Rossi VR40. Ils ont fait un team en Moto 2 pour la première fois. Donc qui de tout ça,
Navarro, après il y a les petits jeunes,
il y a Navarro, qui est monté,
Bagnaia. Il faut pas oublier,
on va demander à Vincent son pronostic.
Garter, le Suisse là,
et Brad Binder, il faut pas l'oublier aussi, c'était un très bon pilote en Moto 3, il peut faire quelque chose aussi en Moto 2, on sait pas.
Le podium à la fin de la saison, Vincent, allez, qui est champion du monde en Moto 2?
Moto 2, je sais pas.
Tu sais pas?
Moi je vois bien Lutti. C'est sa saison ou c'est pas sa saison. Mais soit il sera champion, soit il finira cassé ou autre.
Sur le papier, Lutti, je pense que
c'est du renard. C'est du renard.
On prend pas de risque en donnant Lutti.
Oui, non,
parce que...
mais si, justement, c'est plus... justement, ça peut être à contre-vérité. Il y en a beaucoup qui parlent de jeunes qui arrivent. C'est vrai qu'il y a plein de jeunes derrière. Lui, il a plus de 30 ans.
Il y a 30 ans, Lutti. Ils ont tous 27, 22, 21.
Ça fait nombreuses saisons qu'il y a en Moto 2.
Il a une belle saison à la fin de la saison l'an dernier. Il est bien remonté, mais...
Moi, je donnerais Morbidelli.
Morbidelli, VDS, et Marquez.
Parce que le team aujourd'hui...
Ouais, il est très fort.
Ils sont là sur tous les circuits. Base de data, à mon avis, au top. Et je pense qu'aujourd'hui, le team plus... Et Marquez, qui va tout le temps quand même être là, je pense que le team aujourd'hui, VDS, vise le titre. Et ils l'ont clairement annoncé. Et je pense qu'ils ont ils ont deux pilotes réellement prétendants.
Le team de Lutti est quand même...
carrément. Non, mais j'en doute pas.
Ça fait quand même 5 ans qu'ils sont là.
Carrément.
C'est deux teams, justement, deux pointes, et on va voir le meilleur.
C'est ce que j'avais mis, effectivement. Morbidelli, Lutti, Marquez.
Lutti, moi, en deuxième position aussi, tout à fait.
J'ai mis.
Alors, Vincent. Attendez, on va poser la question. Petit jeune, quand même. Vous avez toujours la parole, vous, les vieux, là.
Oh! Il y a aussi Yoni Hernandez qui vient du MotoGP.
Ouais, alors.
Ah oui, c'est vrai qu'il est redescendu en Moto 2. Ouais.
Il y a une carte à jouer, je pense.
D'accord. Bon, on va noter tout ça, parce qu'on va vous réinviter au mois de novembre, au dernier Grand Prix.
Il doit trouver que sa moto, elle manque de chevaux, quand même, Yoni.
C'est pas les mêmes.
Bon, très bien. On passe à un morceau de musique ou on a encore un peu de choses à dire sur la Moto 2? Non, je pense qu'on a fait le tour un peu.
Ouais, dans les 13 à suivre, il y a un Colombien qui arrive, c'est nouveau ça, la Colombie, dans les sports moto, c'est
On n'a jamais vu.
Voilà. Très bien, allez, musique, et on se retrouve après. Allô.
Oui.
Allô Jérémy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, tu es à l'antenne de Radio Campus Lille. Jérémy, tu es le président du motoclub de Vingles.
Oui, c'est bien ça, le motoclub des Étangs. Bonjour
des
à tous.
Des Étangs,
ça.
Motoclub des Étangs de Vingles. Et tu prépares le trial à l'ancienne qui aura lieu dimanche prochain.
C'est bien ça. Alors, un trial de moto ancienne avec des machines très vieilles, quoi. C'est pour ça que d'où l'appellation, on va dire.
D'accord. Alors là, vous êtes en train de préparer le parcours, parce que c'est un peu spécial, hein, un trial à l'ancienne. Hein, il faut quand même un parcours particulier, hein, pour ces machines.
Oui, non, mais c'est sûr. Après, bon, il y a différents niveaux selon les années d'expérience, on va dire. Donc, ça se passe sous des formes de flèches de couleur, quoi. Et là, oui, on est en pleine préparation. L'équipe de trialistes sont en plein boom depuis hier.
Voilà. Aujourd'hui, il fait beau. Est-ce que si dimanche prochain il fait beau aussi, est-ce que c'est bien pour le trial d'avoir du soleil, ou il faut mieux avoir un peu de pluie ou de la pluie le samedi et beau le dimanche?
Voilà, bon, question organisation, pardon, je préfère du soleil pour dire que tout le monde passe une journée. Après, au niveau pratique, je sais que les trialistes préfèrent que ça soit légèrement grand. Et là, pour avoir regardé encore la météo ce matin, a priori, ils annoncent une petite pluie du samedi et beau temps dimanche.
Oh, c'est merveilleux, ça, alors, Jérémy. C'est merveilleux pour le trial.
On va croiser les doigts pour que ça dure. Ouais.
Donc, ça, c'est pour dimanche prochain. Ça va commencer à quelle heure?
Donc, le départ sera donné à 9h30. Pour une arrivée prévue 16h, c'est-à-dire qu'ils auront un laps de temps pour parcourir les zones deux fois et trois fois pour les experts, on va dire.
Très bien, c'est gratuit.
Et l'entrée est gratuite, restauration sur place.
Donc,
l'ambiance du motoclub attitré.
Est-ce que tu peux resituer un peu l'emplacement où se trouve le circuit là, du motoclub des Étangs?
Le circuit du motoclub se trouve sur la base de loisirs dans le triangle 20 d'Ouvrin, Villiers-Berclau.
Très bien. Et puis à midi, de toute façon, il y a de quoi se restaurer. Hein.
Oui, il y aura de quoi se restaurer. Il y a la petite friterie qui
est un partenaire. Il y a combien de pilotes d'inscrits?
Alors pour l'instant, on est une trentaine d'inscrits. Et c'est une bonne moyenne par rapport aux années, quoi, sachant qu'il y a beaucoup de pilotes qui s'inscrivent le jour même.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une tête d'affiche, un pilote, un vieux pilote renommé en trial qui sera présent?
Pour l'instant, non, j'ai pas un nom.
Mais il pourrait y en avoir. Pour l'instant, la liste des engagés n'est pas close.
Non, loin de là. Je vous dis, on accueille encore le jour même. Après, bon, la particularité du trial, c'est qu'il démarre plus tard la journée. Donc les gars se lèvent le matin, ah bah tiens, il y a du soleil, allez hop, on monte là-bas.
Ah oui, d'accord, ça se passe comme ça. Bon.
Ouais, on prend les engagements jusque 10h, malgré que le départ juste avant. Quoi. Donc,
alors si j'achète une moto de trial cette semaine, voilà. J'arrive dimanche, tiens, je fais crack, je peux me...
Voilà, bien sûr, il faudra la licence et puis,
il faut
et
la
puis
licence.
Après c'est parti.
D'accord, bon,
ok. Ah ouais, licence obligatoire quand même.
Très bien, Jérémy. Bon, ben voilà, on rappelle, hein, donc c'est dimanche prochain, à partir de 9h, 9h30, hein, ça?
Oui, voilà, ouais, c'est hein. ça.
Et puis s'il fait beau, c'est bien, ça fait une petite balade, hein, parce que le trial, on marche beaucoup, enfin les spectateurs marchent beaucoup.
Ouais, bah les zones sont sur tout le circuit, autour du circuit de motocross, quoi, et puis il y a de quoi marcher. Donc c'est pour ça que vaut mieux en même temps qu'il fasse bon. Parce que si on vient en petit soulier, ça risque d'être un peu gros.
Oui, je me souviens, une fois, je suis venu, il faisait très gras et j'ai vu des dames en haut talon. Et ça le faisait, pas sur le terrain.
Voilà.
Très bien. Donc voilà, on retient la petite sortie de dimanche prochain. Donc, la base des Étangs, hein, c'est le motoclub des Étangs à Vingles. Et
sur la base de loisirs de Vingles d'Ouvrin,
voilà,
Villiers-Berclau.
Voilà, très bien. Voilà, merci Jérémy d'avoir répondu à nos questions. Et on te laisse parce que je sais que tu as beaucoup de travail.
Ouais, ok, on va se remettre au boulot
la semaine prochaine. Et bon trial pour la semaine prochaine, merci.
Ok, merci bien, bonjour à toute l'équipe.
Au revoir. Look down the broken road. Once a highway for the free. Where angel misses are shown, very little sympathy. Child carries child, the world refused to see. So far from home, no place for them to be. And they lie awake at night. Next blow, when will the next blow fall? voilà. Non, c'est moto de marque. Vincent, qu'est-ce que t'en penses là, Laurent nous a mis un petit départ là. Ouais. Un petit départ de Grand Prix là.
Non, c'est bon, non.
ça m'étonnerait que ça soit un Grand Prix. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a une moto. Donc un Grand Prix avec une moto, ça va pas.
Mais c'est Vincent qui part tout seul. Il a déjà atomisé la concurrence.
Le micro est sur la moto, donc forcément, on n'entend pas tout le monde.
Voilà, bon, les spéciales sur le plan du monde, ça commence aujourd'hui au Qatar, 20h pour la MotoGP. Et c'est bien parce qu'on va parler MotoGP tout de suite. Alors, c'est le gros morceau. Alors, qui c'est qui commence à s'y coller ?
Ah, ben, la MotoGP a beaucoup changé parce qu'il y a eu pour une année, c'est la première année depuis longtemps où il y a tellement de nouveaux pilotes qui arrivent, dont Zarco, qu'on connaît tous, double champion du monde, Folger, Rins, Lowe, qui sont arrivés dans différentes motos. Il y a eu beaucoup de changements aussi. Lorenzo qui est parti de Yamaha, Vinales qui est arrivé chez Yamaha. On dirait qu'il lui a fait un cadeau, hein, parce que avec Vinales pour l'instant, tout le monde le voit devant, parce que il a atomisé pratiquement toute l'arrière saison en faisant les meilleurs
les
temps à chaque fois.
Vers nous là, ils étaient, c'est Vinales.
Il a gagné, il a tout gagné.
Il a gagné à chaque fois. Ouais. Hein, en Australie là,
À part la pluie, rien ne pourra l'arrêter.
Oui, c'est vrai que. Ouais. Ouais.
Mais ouais, c'est infernal, parce qu'en plus, il découvre la moto et dès les premiers tours, il fait le record du tour, quoi. C'est vraiment une grosse différence avec les derrière.
Elle doit bien marcher cette Yamaha quand même. Hein,
ouais, parce que, mais de toute façon, oui.
Alors, on parlait de particules et moteurs. À mon avis, les deux.
Ouais, ça marche bien. D'ailleurs, Zarco et Folger, qui sont dans le Team Tech 3, qui ont les Yamaha de l'an dernier, marchent bien. Donc c'est qu'elle doit bien marcher. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que Valentino, il a du mal.
Ouais. Ça, c'est bizarre.
Attends,
il se plaint du pneu avant.
On va demander à Vincent, c'est qui ton pilote fétiche en MotoGP ?
Bah, Rossi.
Ah, tu m'as fait peur.
Ah oui.
J'ai eu peur que tu me dises autre chose. Très bien. Bon, on continue. Alors,
mais peut-être que justement, Lorenzo est en partie.
Non, mais je parlais pas de Lorenzo.
Non, mais je sais bien. Je sais de qui tu parles.
Rossi a réussi à virer Lorenzo, mais il a récupéré une LS.
C'est peut-être pas.
Je pense que c'est pas bon.
C'est peut-être pas aussi bon que ça. Non. Au niveau attente, en temps, par contre, ça a l'air d'aller dans le.
Pour l'instant. Non mais attends, le problème c'est que on peut pas. Il est un peu tronqué ce premier Grand Prix, hein, parce qu'il n'y a pas de qualif, il n'y a pas eu de machin.
Ça ne sera pas révélateur du tout de la saison.
C'est pas révélateur. C'est sûr.
Il ne faut jamais oublier que les Honda n'ont jamais été aussi bien avant saison, parce que ça fait 3 ou 4 ans. À chaque fois, ils arrivent mal et ils se transforment très vite. Là, ils arrivent assez bien, même si on vous les voit encore pêcher sur certains côtés. Ils arrivent quand même mieux que l'année dernière et l'année avant.
C'est vrai que l'an dernier, on dit il y a eu 8 vainqueurs différents, c'était vraiment exceptionnel. Mais il y a la pluie qui a aidé pour avoir ces 8 vainqueurs. Et puis le manque de compétitivité de Honda en début de saison, donc qui a fait que des gens ont pu émerger. Donc c'est sûr que ça a joué ça.
Alors là, j'ai regardé les deux premières lignes. Hein. Et ben, on a toutes les marques, on a Yamaha, Suzuki, Honda. Ducati et on a sauf KTM qui est pas
et là. Elle a pris un non plus.
Mais ouais, on a quand même quatre marques. Hein, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Ouais, oui, c'est vrai. Ça, l'an dernier, on a vu régulièrement.
Il y a une marque supplémentaire.
Il y a Suzuki qui arrive au niveau et qui peut prétendre. Donc Suzuki, ils ont fait un drôle de choix parce qu'ils ont largué leurs deux pilotes pour en prendre de nouveaux. Donc ça c'est un peu curieux parce que justement Yannon il disait moi je pilote pas comme Vinales et il y a aucun réglage qui de l'an dernier qui correspond à mon pilotage.
Ils ont pas laissé partir Vinales.
Ils ont pas laissé partir Vinales. Ils auraient bien aimé le garder. Ouais.
Avec le contrat ils auraient pu essayer de le coincer mais ils ont pas voulu quoi. Et puis mais par contre ils ont choisi de larguer Alex Espargaro. Je pense pas que ce soit la meilleure solution. C'est quelqu'un qui est un bon pilote Alex Espargaro. Donc ils ont perdu tous les réglages, du coup ils repartent d'une feuille blanche presque avec des nouveaux pilotes.
Voilà. C'est compliqué. C'est ce qui va faire la faiblesse de Suzuki cette année, je pense.
Ouais. C'est sûr.
La faiblesse, pas que la faiblesse, parce que Alex Rins, quand même,
je suis d'accord, c'est un bon pilote. Mais
je pense qu'il peut aussi surprendre.
Il change de catégorie et il y a une moto qui n'est pas finie. Donc il faut qu'il la finisse, lui. Ouais. Il est peut-être pas habitué à ça. Hein. C'est...
Et Yannon, il est bouillant, mais il faut partir assez régulièrement. Ouais, voilà. Donc,
mais c'est des pilotes qu'on va peut-être retrouver sur des, oui. des éclats. Des...
Oui, voilà.
Voilà, c'est ça.
Il va faire un podium, mais il peut être devant, mais pas toujours. Pas régulièrement, ouais. pas régulier.
Alors, ouais. et Cocorico, encore une fois, on va hisser le drapeau français, on va hisser les couleurs. Et ouais. quatrième, Johan Zarco.
Ouais. Il a fait un bon coup. Oui. En fait, pendant les essais libres, il a eu l'occasion de tester pour la première fois. On parlait tous du nouveau pneu. Il y a un nouveau pneu tendre chez Michelin cette année. Donc, il a voulu le tester à la fin des essais libres. Il a passé le pneu tendre. Il a fait 4 tours. Et sur son chemin, il y avait Vinales. Il s'est accroché à sa roue. Et du coup, ça l'a hissé parce qu'il n'était pas à ce niveau-là. Du coup, ça l'a hissé un petit peu artificiellement au troisième temps de la série, qui l'amène en temps combiné au quatrième temps. Et donc, mais c'est pour ça qu'il se retrouve
suivi,
au quatrième.
Il a suivi quand même sur pas mal de tours. Et donc, il n'y a pas énormément qui suivent quand même certains pilotes. Hein.
Non, mais c'est sûr que, de toute façon, la Yam est une bonne moto. Mais par exemple, Folger, il a fait des meilleurs essais en vrai que Zarco au niveau du temps de référence au tour sur pneus durs.
Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Zarco?
On pourrait le voir. Un tour et une course, c'est pas pareil.
On pourrait le voir souvent sur le podium.
C'est un travailleur, il va y arriver, il va y arriver. Ouais, il faut pas attendre des résultats.
Podium,
tout de suite.
Je dirais pas tout de suite, mais dans les 10.
C'est un travailleur, il va réussir. Oui, il va réussir. Il a la bonne démarche. c'est un bosseur.
Il y a Vincent qui fait non.
Tu crois pas, Vincent?
Tu crois pas, Vincent, quoi?
Ah, vas-y, dis-nous ça, fond de ta pensée.
Dis-le au micro de campus.
Il a commencé le moto 2.
Parle devant le micro, parle-moi à moi.
Il a commencé le moto 2 en 2010, il a attendu 2015 pour gagner. 5 ans d'adaptation.
Ouais. Non, il a quand même gagné deux fois le champion du monde moto 2 quand même. Hein. Et c'est pas rien, il y avait quand même derrière.
Il y a personne qui l'a fait avant lui.
Ouais, mais c'est pas le moto 2, le moto GP, c'est pas le moto 2, il veut pas
oui, bien sûr,
qu'il fasse des résultats.
Et donc tu dis qu'il va falloir attendre longtemps pour qu'il puisse être bien performant.
Pas longtemps, parce que là il a une très bonne moto, mais faut pas espérer qu'il gagne le titre dans 2 ans.
Ah, il gagnera pas le titre, moi je pense pas qu'il gagnera le titre un jour.
Non,
mais par contre, il peut faire un podium, il peut faire un ou deux podiums
dans un grand prix.
Ou gagner un grand prix, ouais. Ça peut arriver.
Écoute, si jamais Zarco est champion du monde un jour, là on débouche le champagne ici dans les studios, écoute, sans déconner, c'est vrai. Écoute,
pour moins que ça.
Mais moins que ça.
Il gagne un grand prix,
Allez, si on gagne 5, on débouche le champagne. Non, alors qui tu vois, alors donne un pronostic hein, pour allez, 3 premières places à la fin de l'année là.
À la liste.
Vincent. Vinales.
Tu vois Vinales? Bah Igor, il débute hein, Vinales. Vinales, ouais, il connaît pas la machine non plus. Hein.
Il débute sur Yamaha.
Ouais, mais
il connaît pas la machine. Deux ans,
ouais. C'est sa troisième année quand même.
Ah bah tu vois, 3 ans, voilà. Vinales et après.
Deux, je sais pas, il y a Marquez, Rossi. Il y a Nonet qui peut faire un truc, Dovizioso, il y en a plein qui peuvent, mais je pense que c'est Vinales qui va dominer.
Il faut faire un choix, hein. Écoute, il faut faire le vote. Hein. Donc, alors Vinales...
C'est marrant, Vincent, il n'a pas cité notre ami Lorenzo.
Eh oui, et Lorenzo alors, qu'est-ce que t'en penses?
Et Rossi.
T'as pas confiance
en Lorenzo? Il a dit Rossi.
Si, il a dit Rossi.
Mais il n'a pas dit Lorenzo, et Lorenzo, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il est arrivé sur une moto... qui semble pas trop lui convenir. Hein.
Oui, je pense il est 12e. Hein,
je pense que ça va être compliqué, mais pareil, il faut peut-être attendre la première course pour vraiment jauger, voir... parce que les courses sont longues, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et ça fait que Ducati, ça reste une très bonne équipe quand même qui peut jouer la gagne.
C'est là qu'on revient un petit peu à la partie cycle. Hein. On parlait en moto 2, cette Ducati, elle est moteur, il est performant, il marche bien. Hein. Je crois que
c'est
le meilleur moteur.
Il va plus puissant.
Les 6 premières, des Ducati en vitesse de pointe.
Mais par contre, voilà. Les pilotes ont énormément de mal à piloter.
À la faire tourner.
À la faire tourner.
Ouais. Et d'ailleurs, cette année, on n'en a pas parlé, mais il n'y a plus d'aileron. Il n'y a plus d'aileron cette année.
Ah oui, les modifs. Alors,
ils ont essayé d'intégrer ça dans les carénages et on a vu une Ducati affreuse, une espèce de requin-marteau. Abominable, ça ressemble plus à une moto. Et après, on a vu une Yam. Ils avaient mis donc les ailerons, ils ont mis à l'intérieur, dans les joues. Et on aurait dit une GT, on aurait dit une moto de tourisme avec un gros carénage très large. Mais avant, il n'y avait pas d'aileron et ça marchait quand même. Alors, c'est bizarre tout ça.
Alors, apparemment, ils se sont posé la question, mais les ailerons, je lui dis, en fait, il y a Ducati qui a commencé à faire ça, donc toutes les autres marques ont commencé à faire aussi. Et ils se posaient vraiment des questions si vraiment ça servait à quelque chose. Et là, apparemment, ils les ont enlevés. et se sont rendus compte qu'effectivement ça servait à quelque chose.
Voilà. Voilà. Surtout pour la Ducati, c'est la Ducati qui souffre le plus du manque d'élan. Voilà.
Tiens, on parlait de Rossi alors, qu'est-ce que vous en pensez? 48 ans, 48, 38 ans.
48 ans, ouais. il sera plus là, je crois.
38 ans.
Bah, toujours vert, hein, comme on voit, mais cette année, je pense qu'il y a un petit peu de mal, mais justement, c'est l'homme d'épaule. Faut jamais oublier ça. Et là, cette année, il n'y en a pas eu. Là, il n'y a que des essais. Et ouais. Donc, il n'y a qu'à la dernière minute où il fait un temps, souvent. Un temps qui est mieux. Alors, donc, par contre, là,
mais Claude, ça fait 2-3 ans que tu dis que tu ne mets même pas Rossi dans ton classement.
Si. Hein,
non,
si,
attends. Si. Non. Et quand même, ça fait 2-3 ans qu'il termine deuxième. Hein.
Trois ans qu'il termine deuxième.
Deuxième.
Ouais, 3 ans qu'il termine deuxième. Il rêve toujours d'un dixième titre.
Il faut pas le.
Mais là, ça va être de plus en plus compliqué. Ça va être de plus en plus compliqué. Par contre, il y a une deuxième chose qu'il essaye d'atteindre. Il lui manque 8 victoires pour battre le record d'Agostini.
Agostini.
Donc ça, je pense que c'est peut-être faisable. Mais un dixième titre, ça sera dur. Mais Rossi reste aussi en course, c'est le meilleur. En course, il décuple sa.
38 ans, la joie.
Il trouve des ressources incroyables.
Quand il gagne, il est encore heureux comme un petit jeune comme Vincent. Et si on a gagné.
Et si on enlève toutes les attaques de Rossi l'an dernier, il n'y aurait pas eu de spectacle. C'est vraiment. En course, il est formidable.
Et moi, je pense que s'il y a beaucoup de monde sur les Grands Prix. C'est aussi grâce un peu à lui. Hein,
bien
parce
sûr
que lui, il sera plus là.
Bien sûr que
Rossi,
bien sûr que oui.
C'est pas Marquez qui va faire venir les gens. Hein.
Il a un charisme formidable.
Il a joué la bonne carte. Hein.
Ouais. Marquez, il y a le spectacle. Hein, là aussi, hein, quand on le regarde, des fois, il pourrait tempérer pour finir et il veut gagner. Donc, il prend des risques spectaculaires.
Oui, il y a un pilotage un peu spécial, Marquez. Moi, j'ai vu, mais vraiment, au Grand Prix de France, là.
Ça reste les meilleurs pilotes mondiaux.
Largement, ils sont impressionnants.
Dans la même catégorie, donc forcément, là, on peut en parler des heures et des heures.
Ouais. Allez, il va nous rester une minute, là. Vous parlez de ce qui est important, donc, pour cette saison 2017, Anthony.
La performance aussi de notre deuxième pilote MotoGP, Loris Bas.
Ah oui, Loris Bas. On a parlé de Loris Bas, bah oui.
Vous avez oublié de citer, mais que finalement,
c'est sûr.
Il a fait une bonne FP2, il me semble, avec un sixième temps, je crois, en FP2.
Et là, il partira, je ne sais plus, sur la ligne
12e,
je crois.
14e, un petit peu plus
loin. 14e.
14e, mais bon, il se fait bien remarquer, je veux dire, espérer qu'il fasse aussi des bonnes
choses. Il est hérité d'une génération supérieure de Ducati, donc qui marche mieux.
Tout à l'heure, on parlait un peu de se prendre le melon. Moi, je trouve que Zarco, il est cool, ce mec-là, ce pilote-là. Quand on le voit à la télé, il est simple. C'est pas quelqu'un qui veut.
Il est bien entouré, à mon avis.
Bah, il a fait des hauts et des bas pas mal, hein, donc je pense que c'est ça qu'il a un peu.
Je pense que par rapport au pilote espagnol, il a quand même vraiment galéré pour arriver à y en est, parce que ça traînait longtemps et ça fait que forcément aujourd'hui il est super ravi de ce qu'il fait, c'est complètement normal. C'est vrai que ça a l'air d'être quelqu'un vraiment tranquille, on le voit sur les interviews.
Il doit faire du yoga, je pense.
C'est vrai qu'il réfléchit beaucoup avant de parler, en tout cas.
Merci Tony d'être venu aujourd'hui dans les studios du campus, malgré le décalage horaire, hein, vous avez dormi un peu moins quand même.
Ouais, c'est moi qui vous remercie.
Alors, Balou, salut, tu peux partir. Nico, merci pour encore une fois cette émission.
Ah oui, une bonne saison à Vincent. Hein.
Réserve Vincent en dernier. Claude, on se reverra peut-être au Grand Prix de France. Peut-être on fera un point au Grand Prix de France.
Juste après.
Au mois de mai. C'est le 21 mai. Hein.
Oui.
Voilà. Donc Vincent, on te souhaite quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
De gagner une bonne saison, une bonne moto, une bonne saison
et un bon team. Et puis prendre du plaisir, oublie pas. Et prendre son,
du plaisir,
et prendre son pied. Ça. C'est le principal dans cette vie. Voilà. Merci Laurent.
Merci à tous et au revoir.